Mais elle est au point, ta recette de vin chaud. Tu vas quand même pas en tester une nouvelle tous les jours. Bon, allez, lâche ta casserole. J'en ai marre d'écouter l'agité du local toute seule.
Décider de partir, décider de dire stop, ce n'est absolument pas seulement décider. C'est déjà prendre conscience de ce qu'il se passe, trouver les ressources de toutes sortes pour faire ce pas lorsque l'on est victime de violences conjugales ou intrafamiliales. Il faudra ensuite ouvrir la bonne porte, et cette porte-là, il faut encore savoir qu'elle existe et où elle se trouve. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invitée d'aujourd'hui. Elle est psychologue au pôle prévention et protection au sein de l'association Enosia dans le service d'accueil de jour Citadelle à Laval. Sophie Vaillant, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans la seconde partie de cette émission, on ira à La Roche-sur-Yon avec la radio Graffiti pour notre reportage Pensée locale de la semaine. On retrouvera un groupe d'entraide mutuelle destiné à rompre l'isolement de personnes en situation de handicap. Bienvenue à vous, amis auditeurs, et bonjour Lucie.
Bonjour.
C'est ton dernier jour de la semaine avec moi dans la JT et nos auditeurs ne le voient pas, mais tu amènes un peu de la magie de Noël en studio avec ta très jolie salopette au motif de guirlande de Noël. Merci pour ça. Allez, on commence par un point sur les actualités locales, Lucie.
Tout à fait, c'est l'hiver, Margot. On a tous autour de nous des gens malades et dans son dernier bulletin épidémiologique publié hier, Santé publique France observe une dégradation de la situation sanitaire en lien avec les infections respiratoires aiguës. Traduction, ça y est, c'est la période, les virus sévissent et nous infectent tous joyeusement. Comme avec tout ça, c'est bientôt les fêtes, l'Agence régionale de santé ou ARS recommande fortement le vaccin contre les virus de la grippe et du Covid-19. Ils expliquent que c'est particulièrement important pour protéger les personnes à risque qui sont plus susceptibles de développer des formes graves. La vaccination est notamment vivement conseillée par l'ARS à l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois. Pour ceux qui ont des doutes, je ne vais pas pouvoir être exhaustive ici, mais sur le site de l'ARS, vous pouvez trouver une liste complète de qui sont ces fameuses personnes à risque. L'autre chose qui va avoir un rôle très important pour protéger votre santé et celle des autres, c'est de bien respecter les gestes barrières. Vous les connaissez normalement, port du masque en cas de symptômes et en présence de personnes à risque, aérer régulièrement, se laver régulièrement les mains, les 30 secondes, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et bien respecter la distanciation physique. C'est pas super drôle, je vous l'accorde, mais tout de même, quand ils sont tous respectés, ces fameux gestes sont un bouclier de protection de choix. D'ailleurs, même les personnes vaccinées sont concernées par le respect des gestes barrières. Une dernière chose avant de passer à la suite, pour éviter la surcharge des services d'urgence, l'ARS vous invite à consulter son médecin traitant en priorité.
Eh bien, merci pour ce point santé. Est-ce qu'il y a autre chose, Lucie ?
Bien sûr, un petit moment mignon avant de conclure. Les chauves-souris avaient été découvertes lors d'un chantier de nettoyage sur la cité administrative de Laval. Lors du conseil municipal du 11 décembre, les élus lavallois ont approuvé un projet d'arrêté de protection de biotopes sur ces bâtiments. En d'autres termes, la ville a donné son accord pour continuer ses efforts dans la préservation des chauves-souris, qui sont d'ailleurs une espèce protégée. Et pour terminer, deux rendez-vous à retenir pour ce week-end. À Dents, l'association Les Quatre A, association des artisans, artisans d'art et commerçants de Dents, organise la troisième édition de son événement Dents Fête Noël. Au programme, un marché d'artisans locaux, bar à huîtres et marrons chauds, concerts, spectacles, enfin bref, ça donne envie. Ce sera dimanche 17 décembre de 10h à 18h dans le bourg de Dents autour de la place de l'église. Et la veille, le samedi 16 décembre, le bistrot associatif Saint-Pierre sur Rêve propose de venir tester le jeu Projet Alimentaire Territorial qui a pour sujet les enjeux agricoles et alimentaires. Le tout autour d'un repas préparé par la chef Sylvie, qui est locale et bio. C'est samedi 16 décembre à partir de 19h au bistrot associatif de Saint-Pierre sur Rêve. Donc.
Merci Lucie. Sophie Vaillant, vous êtes avec nous aujourd'hui, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, psychologue au pôle prévention et protection au sein de l'association Enosia et donc particulièrement à l'accueil de jour Citadelle à Laval pour les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Est-ce que peut-être vous pouvez présenter un petit peu ce que c'est Citadelle ?
La Citadelle, c'est un lieu où les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales peuvent venir, déjà pour se poser et se reposer, pour avoir un lieu pour elles où elles se sentent en sécurité. Et puis ensuite, si elles le souhaitent, à leur rythme, selon leurs demandes, pouvoir évaluer leur situation et leurs demandes. Et avec elles, en fonction de leurs besoins, mettre en place les démarches administratives, éventuellement pour sortir de cette situation de violence. Et puis, il y a évidemment tout le volet reconstruction qu'il ne faut pas négliger, avec la reconstruction psychologique, travailler sur l'estime de soi, l'image qu'on a de soi-même, etc., etc. On a de nombreux ateliers pour faire ça, groupe de parole, sophrologie qui va bientôt être remis en place, self-défense avec l'association Femmes Solidaires, l'accès à la culture, on a un partenariat avec le Théâtre de Laval et beaucoup d'autres choses. Donc on reçoit les femmes et j'ai aussi une collègue éducatrice spécialisée qui peut recevoir les enfants de 6 à 11 ans pour leur proposer un espace de parole à eux aussi. Mais effectivement, notre public cible à la base sont toutes femmes majeures victimes de violences conjugales et intrafamiliales sur tout le département puisque nous sommes un service départemental.
D'accord. Et donc vous, en tant que psychologue, je pense que vous intervenez particulièrement dans, justement, vous parliez de reconstruction tout à l'heure. Ça, c'est une étape qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Je pense que c'est un processus long, finalement.
C'est un processus extrêmement long et qui est à ne pas négliger. Maintenant, on a compris ça dans la prise en charge de cette problématique, que c'est pas quand on a quitté le conjoint violent et le domicile que tout est reconstruit derrière. Donc, il y a ce travail psychologique de travailler déjà sur le psychotrauma, hein, parce qu'il peut y avoir des symptômes extrêmement envahissants et invalidants au quotidien. Et puis, au fait, travailler sur sa propre personnalité, parce que ce sont des femmes qui arrivent chez nous, qui ne savent pas qui elles sont, parce qu'elles ont calqué leur comportement sur les demandes et les besoins de monsieur, parce que c'était au moment où elles étaient au domicile ce qu'il y avait de plus sûr pour elles, pour survivre réellement. Donc c'est tout ce travail-là, se découvrir ou se redécouvrir pour enfin pouvoir se remettre en action en fonction de ce qu'on veut pour soi. Et ça, c'est un travail de plusieurs années.
Et donc, je le disais en tout début d'émission, il y a déjà l'étape de prendre conscience de ce qu'on vit, du fait que ce soit anormal.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut peut-être en quelques mots réexpliquer qu'est-ce que c'est des violences intrafamiliales et conjugales ?
Les violences conjugales, c'est vraiment un processus, une dynamique relationnelle qui fait que dans la relation, alors là en l'occurrence de couple on va dire, fait que un des protagonistes est en position haute, donc décide tout, et la victime, la plupart du temps la femme, est en position basse, donc n'a strictement aucun droit de réponse. C'est ça qu'il faut repérer dans la relation, l'asymétrie. Parce que finalement, il y a des couples qui se disputent, ça arrive à la majorité des couples, mais dans la dispute, chacun a le droit de donner son avis, a droit de réponse, etc. etc. Dans la violence conjugale, pas du tout. La personne qui domine décide tout, et l'autre n'a qu'à exécuter.
Il y a peut-être des signes qu'à un moment... déjà, j'imagine qu'à partir du moment où on a des doutes, où on se sent réellement dans une position inconfortable, et je pense que le mot inconfortable est peut-être carrément faible, mais il y a peut-être des signes, déjà, on se dit, mais si je pense à telle ou telle chose, c'est peut-être déjà un signal d'alerte. Est-ce que vous pourriez nous indiquer des premiers signes que vous constatez-vous?
C'est une question qu'on nous pose souvent, mais qui n'est pas évidente. Alors, pour soi-même, dans son propre couple, effectivement, à partir du moment où on ne se sent pas bien dans le couple, ça peut être intéressant d'aller en parler à quelqu'un. Mais voilà, ne pas avoir le droit de s'habiller comme on veut, de donner son avis, que monsieur choisisse les amis de madame, parce que oh ouais, non, mais elle ne l'aime pas trop, et puis ta mère, je crois qu'elle ne m'aime pas, viens. Et puis du chantage sur la relation. En gros, si madame fait des choses pour elle-même, monsieur va toujours ramener quelque chose dans le discours autour du fait « c'est parce que tu m'aimes moins, c'est parce que tu te désintéresses de moi ». Alors que normalement, il n'y a pas de choix à avoir. On peut avoir des amis, un travail, une famille, un conjoint, des enfants et aménager un quotidien entendable pour tout le monde là-dedans sans qu'il y ait ce chantage permanent à la relation et aux sentiments. Et puis après, vu de l'extérieur, c'est tellement difficile. Mais des femmes où vous leur posez une question, c'est tout le temps monsieur qui répond. Des femmes qui ne regardent jamais personne dans les yeux quand elles s'adressent à quelqu'un. Des femmes qui ont des gestes d'appréhension dès qu'un homme s'approche un petit peu. Enfin, ça peut être tellement de choses. Et qui sont, oui, on le sait, difficilement repérables, mais avec un œil aiguisé, on peut venir à repérer, oui.
Et alors peut-être, d'un point de vue extérieur, si à un moment on a des doutes, ou si on est même témoin directement, comment on peut guider une personne justement pour ne pas la laisser seule, donner des pistes, essayer de tendre la main, de quelle manière est-ce qu'on peut le faire ?
Je vous remercie pour cette question parce qu'elle est extrêmement importante. Quand on est témoin ou quand on se rend compte, déjà la chose à éviter, c'est d'aller confronter l'auteur. Parce que clairement, il sera très fâché et c'est encore madame à la maison une fois que la porte sera refermée qui aura des problèmes. Mais par contre, c'est aller voir madame, enfin la victime en tout cas, et lui signaler que vous avez remarqué. Alors peut-être qu'elle va nier, elle va dire mais non, non, pas du tout. Ok, moi je te dis juste que j'estime que ça, voilà, des choses que vous avez identifiées, ce n'est pas normal et surtout n'avoir qu'un seul cadre à rappeler, la loi. Quand ton compagnon t'insulte devant tes amis parce que tu n'as pas la même idée que lui, en fait, insulter quelqu'un, c'est interdit. Voilà, là, il t'a bousculé, bah, ça, c'est interdit. Là, il contrôle ta carte bancaire, c'est interdit. Voilà, juste signaler que vous avez remarqué. Moi, je dis tout le temps, vous semez des graines. Ça germera quand ce sera le bon moment pour madame. Et comme vous lui aurez signalé que vous n'êtes pas dupe, que vous avez remarqué, bah justement, c'est peut-être vous qu'elle viendra voir quand elle sera prête pour en parler et éventuellement mettre des choses en place si elle veut quitter cette situation de violence.
Parce que justement, on parlait tout à l'heure de processus long. Vous avez aussi évoqué les enfants qui peuvent être accueillis, que vous n'accompagnez pas spécifiquement. Mais il faut aussi rappeler que les violences intrafamiliales et conjugales, en fait, ça rayonne aussi sur tout le cercle. Les enfants qui sont présents, finalement, subissent aussi à leur manière...
Tout à fait. Les enfants qui sont témoins de victimes, qui sont témoins de violences sur un de leurs parents à la maison. Avant, on disait victime indirecte, je crois. Maintenant, on dit co-victime parce que, alors je vais vous passer tous les tenants et aboutissements psychiques, mais on sait que qu'on soit victime directe ou témoin de violences, au fait, les dégâts psychiques sont exactement les mêmes. Donc, les enfants qui sont témoins sont co-victimes, il y a énormément de travail avec eux. Et on a effectivement, nous, à la Citadelle, une des éducatrices spécialisées, Sandrine Silmar, qui propose un espace dédié aux enfants de 6 à 11 ans pour qu'ils, eux aussi, puissent déposer « bah voilà, j'ai eu très peur ». Voilà ce qui s'est passé, qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Puis exprimer leurs émotions, ça peut être « je suis en colère contre papa parce qu'il fait mal à maman, mais je peux aussi être en colère contre maman parce qu'elle ne nous protège pas ». Et tout ça, il faut aussi qu'ils aient le lieu pour le dire. Quelquefois, retravailler leur place d'enfant, parce qu'on a des enfants à la maison qui font tout parce que maman est trop épuisée. Et elle a de quoi. Donc, ils prennent des choses en charge et ça, c'est pas leur boulot. Des enfants qui sont trop sages, ben oui, ils ont appris ça aussi. Donc, retrouver leur place d'enfant. Et quelquefois aussi, c'est quelque chose, un travail qu'on fait avec les femmes aussi, travailler des scénarios de protection. Voilà, à la maison, papa se met à crier, bah, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce qu'il y a une pièce où tu peux t'enfermer pour te protéger ? Un téléphone que tu peux cacher quelque part ? Une porte arrière par laquelle tu peux sortir et te réfugier chez quelqu'un de confiance ? On travaille ça avec les dames aussi. Et quand ma collègue Sandrine reçoit les enfants, elle ne reçoit pas la maman, c'est mon autre collègue, éducatrice spécialisée Alexandra Peigné, qui la reçoit pour que chacun soit garanti dans son espace et dans sa confidentialité. Tout comme, et moi, de même, quand je reçois une dame, il y a la confidentialité. Alors après, on travaille en équipe. Hein, on ressort de nos entretiens des choses communes pour pouvoir travailler dans un sens commun et efficient pour la personne. Mais on garantit ça.
Et on a évoqué un peu l'enfant. Un enfant qui grandit dans un cadre non sécurisant comme ça, je pense que c'est important de parler justement de l'impact que ça va avoir dans sa vie future, dans sa construction. En fait, c'est pas anodin dans les choix de relations peut-être qu'il va faire ensuite.
C'est jamais anodin, surtout qu'on sait que de toute façon, principalement, un enfant se construit par imitation. Donc le premier modèle principal qu'il a, ce sont les parents. Donc on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer pour l'enfant dans sa construction, ça serait même peut-être condamner l'être humain. Il y a des personnes qui ont une très bonne résilience et qui vont réussir à faire autrement, mais effectivement on peut rencontrer une reproduction du schéma relationnel, parce que un petit garçon à 3 ans qui voit papa taper maman, papa qui décide tout, qui prend, on a le droit d'insulter maman si le ménage n'est pas bien fait et que mon steak n'est pas bien cuit, s'il a appris que ça, il se dit « la vie c'est comme ça, donc je fais comme ça ». Et à l'inverse, une petite fille, si elle a vu ça à la maison, elle peut apprendre qu'elle doit être dédiée au service de monsieur, ne faire qu'obéir, ne jamais donner son avis. Donc c'est finalement rééduquer le schéma relationnel, parce qu'on ne peut pas leur reprocher de reproduire la même chose s'ils ont appris que ça et qu'on ne leur explique pas que c'est interdit et qu'il y a d'autres manières de faire.
Et pour terminer, j'ai envie de revenir quand même sur les chiffres. Moi, ça m'a marqué. Par exemple, cette année, vous avez accueilli environ 300 nouvelles femmes, nouvelles situations.
Alors, ça, ce sont à peu près oui, les chiffres de l'année dernière. On n'a pas arrêté tout à fait nos chiffres de cette année, mais ça va être plus ou moins similaire. L'année dernière, on a reçu 282 nouvelles situations, donc pas loin de 300 nouvelles situations. Plus toutes les situations qu'on connaît des années précédentes, mais je vous ai dit, c'est un travail de plusieurs années. Donc, en gros, sur une année, on a une file active de 400 femmes. Et ces femmes, y en a qui ont des enfants et elles viennent avec leurs enfants. Donc, à peu près 300 enfants l'année dernière reçus. Donc, en gros, ça fait 700 personnes qui ont eu à passer sur notre accueil de jour l'année dernière. Et quand je dis 700 personnes, les femmes, on ne les voit pas juste une fois dans l'année. Il y a des femmes, on les reçoit tous les mois, quelquefois toutes les semaines, quand il y a nécessité à certains moments du parcours. Donc oui, ça fait du monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déménagé récemment dans des locaux plus grands.
Exactement, j'allais venir. Et juste pour terminer quand même, au niveau de ces chiffres, donc c'est des chiffres déjà importants, mais c'est sans compter aussi toutes les situations qui ne sont pas encore... Des personnes qui ne se manifestent pas encore auprès de vous. C'est
évidemment
important de le préciser.
Là, les chiffres peuvent paraître effrayants. En pas loin de 10 ans, on a presque triplé l'activité, je crois. Effectivement, la parole se libère, mais c'est évident qu'on passe à côté de situations, que des femmes n'ont pas encore pris conscience que ce qu'elles vivaient, c'était de la violence. Donc oui, il faut avoir l'œil, il ne faut pas se leurrer, on en connaît tous dans notre entourage, sans le savoir, mais oui, on en connaît tous. Donc le but, c'est de faire connaître les dispositifs, comme je viens faire aujourd'hui, pour que les femmes sachent où s'adresser, et même les personnes qui ne sont pas victimes, si elles réceptionnent le discours de quelqu'un, savoir où les orienter, c'est la première étape. Et on est bien un dispositif départemental, donc on se déploie aussi sur des permanences ou des rendez-vous à la demande sur tout le département pour les femmes qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous.
Et justement, vous disiez que vous aviez déménagé, vous étiez située rue du Britet, vous êtes maintenant au centre Murat, aux 3 rue Oudinot. Toute personne qui voudrait vous contacter, prendre des renseignements, peut-être qu'ils peuvent se déplacer directement, comment ça se passe?
Alors l'accueil de jour, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h en libre accès. Un accueil de jour, c'est sa mission première d'être ouvert. Donc elles peuvent venir sans rendez-vous si c'est plus facile comme ça pour elles. Ou nous contacter sur le 02 43 56 95 94, qui est le standard de notre service, pour prendre rendez-vous si elles le souhaitent. Ou appeler avec un ami, appeler avec un professionnel qu'elles connaissent déjà. Voilà, on s'organise pour que ce soit le plus confortable possible. Pour la dame, c'est une démarche qui est extrêmement compliquée, donc on essaye de s'adapter le plus possible.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui,
merci
Sophie Vaillant. C'est des rappels plus qu'importants et plus qu'essentiels. Donc, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Dans la suite de cette émission, on retrouvera donc notre reportage Pensée locale de la semaine. Il nous emmène à La Roche-sur-Yon. C'est un sujet qui rappelle le fait de rompre l'isolement des personnes en situation de handicap. Ça arrive juste après. On écoute « Comme il est beau » de Florent Marchais.
Quartier La Chapelle, un peu en avance, elle rentre chez elle, faut se faire violence, elle a pris sa douche, il va débarquer, caresser sa bouche, la démaquiller. C'est sûr, elle préfère quand il passe ses nerfs loin de sa peau. Car sans ses colères, ses coups, ses éclairs, comme il est beau, comme il est beau. Comme il est beau. Quartier Odéon. Boulot difficile. Avec la pression, il est si fragile. C'est quoi le problème? Il lui dit souvent, c'est toi le problème. Toi et les enfants. C'est sûr, elle préfère apprendre à se taire quand il le faut. Ses mots, ses colères entrent dans sa chair comme un couteau. Comme un couteau. Comme un couteau. Le temps paraît long. Tu parlais à qui? C'est quoi ces talons? Et devant la glace, il dit t'es vulgaire. Vois pauvre connasse, ce que tu me fais faire. Ses cris, ses colères, c'est son caractère, c'est dans sa peau. C'est sûr, elle préfère quand il passe ses nerfs au casino, au casino. Comment faire, il est plus fort. Sans effort, il casse ton corps. Comment faire, comment le changer? T'as pourtant tout essayé. Pour que ça s'arrête, il faudrait ta tête sur le carreau. Pour que plus jamais ils disent, tu sais, j'étais dans la peau. J'étais dans la peau. J'aurais ta peau. Quartier La Chapelle. Quartier Odéon. Orange et Deauville. Toulon et Dijon. Montargis aussi. Créteil, Chamonix. Et partout tout le temps. Bourges et Montauban. Et partout maintenant. Et partout tellement.
Depuis 2016, un groupe d'entraide mutuelle, aussi appelé GEM, G-E-M, dédié à l'accompagnement du handicap, s'est installé à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de l'association GEM Éclate. Son objectif est de proposer diverses activités dans le but de divertir et surtout sortir les personnes souffrant d'un handicap. On écoute tout de suite, c'est notre reportage Pensée locale de la semaine, réalisé par la radio Graffiti.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Depuis 2016, l'association lyonnaise J'aime éclate propose aux personnes souffrant de handicap de rompre l'isolement. Ce groupe d'entraide mutuelle propose en effet de créer un lien social à travers le divertissement. Tout est mis en œuvre pour redonner du sens au concept du vivre ensemble. Julie est animatrice pour J'aime éclate. Elle est venue accompagnée de Rémi et de Patrice, les deux coprésidents de l'association.
Alors moi, je suis arrivé en 2018 et je suis coprésident depuis, j'entame ma quatrième année.
Pourquoi es-tu allé les rejoindre ?
Alors, c'est un ancien adhérent qui m'a demandé, qui est venu habiter en Vendée. Il a fait ma connaissance et il a voulu que je vienne absolument au J'aime éclate. Donc au début, moi, je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'un J'aime éclate. Alors, je suis venu par curiosité, j'étais visiteur un peu et puis depuis, j'ai adhéré en avril 2018.
C'était quoi ces activités que tu faisais ?
Alors, jeux de société, après il y a eu des sorties, le deuxième vendredi de chaque mois, il y a un planning qui est organisé. Mm-hmm. On choisit ce qu'on va faire pour le mois d'après. Des sorties, il y a du bowling, du cinéma, restaurant, on fait un peu de tout, c'est divers et varié.
Et le but est de se sortir un petit peu de ces idées noires que l'on peut avoir à la maison seule aussi, c'est ça.
Alors,
le but.
Alors voilà, les objectifs généraux, ils sont en priorité pour rompre l'isolement, ils sont surtout aussi pour recréer des liens sociaux, puisque souvent c'est des publics isolés, et on est également aussi sur une recherche d'autonomie, bien sûr, et d'entraide, puisque c'est le but, mais c'est surtout aussi une aventure collective. Puisque c'est j'aime globalement, c'est un collectif de personnes, tout simplement animé par un même projet d'entraide, et tout simplement aussi pour répondre à leurs besoins et leurs envies.
Rémi, toi, quels étaient tes besoins quand tu as rejoint l'équipe ? C'était quand d'ailleurs, quand tu es arrivé, toi ?
Moi, je suis arrivé en 2016.
Mmh. Ah donc, au tout début de l'aventure, en plus.
Moi, je suis arrivé grâce à la RIAMS. Je suis arrivé, je devais faire une demi-matinée. Et je suis jamais reparti.
T'es toujours là. T'es toujours là. Et puis maintenant, tu fais partie de la coprésidence en plus de l'association.
Moi, ça fait 7 ans que je suis au Jeune. Et au bureau, ça doit faire 6 ans.
Ça commence à faire. Vous êtes combien d'ailleurs au total, bénévoles et salariés confondus ?
En une bonne quarantaine.
Ah, quand même.
Ouais.
Une bonne quarantaine répartie sur tout La Roche-sur-Yon.
Principalement.
Avec des événements qui se déroulent toutes les semaines. Quelles sont les périodicités des événements ?
On est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de midi à 18h. Et parfois, il y a le samedi aussi. Et aussi, on peut faire aussi des veillées le soir. Donc, le GEM ouvre plus tard, vers 14h. Et il se fait fini quand on a terminé. Donc, ça peut finir vers 23h, minuit. Ça dépend ce qu'on fait le soir.
Votre arrivée au GEM, à tous les deux, Rémi, Patrice, a dû changer quelque chose aussi dans votre vie, dans votre rapport aux autres. Qu'est-ce que ça a changé ?
Alors, pour moi, c'est vrai que j'avais très peu de copains. C'est vrai que, à part quelques-uns qui m'en restent, mais le reste, là, je me suis fait de nouveaux copains, de nouvelles amies. Et puis, je sors beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, je sortais pratiquement très, très, très peu, quoi, à part mes trucs habituels, mais autrement, je sortais pratiquement
jamais.
Les
courses administratives, voilà, quoi.
Ça, mais là maintenant je me suis fait plein de copains et tout ça, on discute, quand je viens là-bas on discute avec tout le monde, on s'entend bien et tout ça, donc tout est très bien quoi.
Pour toi aussi Rémi, j'imagine que tu as lié des affinités, tu t'es peut-être fait de nouveaux amis avec cette expérience au GEM.
La chose que je peux dire, la chose que j'ai commencé à prendre, c'est l'handicap en fait. Moi j'avais un jugement, j'avais un jugement sur le handicap.
Un a priori.
Ouais, avant de connaître. Avant de tomber malade. Et c'était des critiques, je disais, de toute façon, voilà. Et depuis que j'en connais, j'ai un autre jugement, en fait, maintenant.
Un autre regard. Ça a changé ton regard, ça a changé ta vision du monde aussi.
Aux autres personnes, parce qu'on se dit que ça peut arriver à tout le monde.
Même si l'origine nous était, entre guillemets, imposée pour accueillir principalement du public, ce qu'on appelle traumatisé crânien, ou en lien avec une lésion cérébrale, nous, on vit de nos différences. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger et de pouvoir aussi s'entraider, selon les handicaps, puisqu'on a tous nos jugements et on est tous issus de notre parcours et de notre culture, voire de notre éducation. Et l'avantage de pouvoir changer les regards déjà entre eux favorise aussi une intégration de leur part, et c'est surtout aussi que ça s'ouvre sur un regard extérieur avec du polyhandicap.
Julie, je rappelle que tu es animatrice, tu es la salariée de l'équipe en tout cas aujourd'hui.
Alors on est deux.
Vous êtes deux, et puis Patrice et Rémi, les deux coprésidents de J'aime éclate. Merci à vous d'être venus nous voir et à très bientôt.
Merci à toi. Merci.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Bastien Mathieu pour Graffiti à La Roche-sur-Yon.
Lucie, dis-nous, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on écoute comme dernier morceau pour toi cette semaine ?
Période des fêtes, Margot. Et la période des fêtes, ce n'est pas seulement Maria Carré, c'est aussi Casse-Noisette de Tchaïkovski, ou pas tout à fait. Duke Ellington nous invite à ne pas trop se prendre au sérieux, finalement, avec ce morceau qui, personnellement, me fait beaucoup rire. C'est Toot, ou Dance of the Reed Pipes, de Duke Ellington.
L'agité du local, c'est terminé pour aujourd'hui, mais votre soirée commence avec Le Masque et la tronçonneuse à 19h, votre émission cinéma. Vous présente des films qui parlent de radio ce soir. Ce sera suivi d'une playlist de musique de films justement avant de poursuivre la programmation à 21h.
Oui, avec Quand la musique est bof, et alors sortez les pop-corn parce que c'est soirée ciné sur l'autre radio, c'est une émission... Un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on rediffuse l'émission qui parle du film Strange Days, qui est sorti en 1995.
Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain, prenez soin de vous, et surtout, vous le savez, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.